Dans cette communication, il va être question d'une nouvelle famille d'auteurs, dont la famille Berthaud, qui est une famille qui apparaît dans l'ouvrage de Lynne Kelly de 2020, Born to Write. Il ne dit pas spécifiquement cette famille de la littérature, de littérateur, mais elle apparaît dans son catalogue des familles d'auteurs, d'écrivains, de praticiens des lettres. Plus spécifiquement, elle apparaît grâce à deux noms d'auteurs, deux figures auctoriales qui sont entrées dans l'histoire littéraire. D'abord, au XVIe siècle, Jean Berthaud. Né en 1552, Jean Berthaud s'est illustré comme poète de thé sous les règnes de Henri III et Henri IV. Il a été aussi évêque et aumônier de la reine Marie-Médicis. C'est donc un poète qui a évolué dans l'entourage de la famille royale des Valois comme des premiers bourgeois. Après sa mort, en 1611, ses œuvres continuent à apparaître et donc il reste connu tout au long du XVIIe siècle. Je me souviens notamment qu'il apparaît dans le recueil Barbin de 1692. La seconde figure auctoriale, donc son nom il est annoncé dans ma communication, c'est Françoise Berthaud, dame de Motteville, ou plus communément connue sous le nom de Françoise de Motteville, qui est née entre 1615 et 1621. Sa date de naissance n'est pas attestée, et qui est une autrice polygraphe de la deuxième moitié du XVIIe siècle. On conserve d'elle des lettres, des portraits, un texte associé à une écriture théologienne, j'y reviendrai, mais elle est principalement connue pour la publication de mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche, qui était donc l'épouse de Louis XIII et la mère de Louis XIV. En tant que dame de compagnie de la reine, Françoise de Motteville vivait à la cour de Louis XIV et y est restée jusqu'à la mort d'Anne d'Autriche en 1666. Elle se retire ensuite dans sa demeure de la rue Saint-Denis. Si donc Françoise de Motteville est née après la mort de son nom et ne l'a pas connue, elle mobilise comme lui l'écriture et des compétences intellectuelles transmises pour une part par l'entourage familial, pour assurer un établissement, une ascension sociale au sein de l'espace de vie. Et bien que femme, elle engage le même type d'action que des hommes attachés au pouvoir par un service de vie. L'histoire littéraire a tendance à mésestimer la portée de l'entreprise scripturaire de Françoise de Motteville en ne la regardant pas comme l'œuvre d'une professionnelle de l'écriture, mais plutôt comme l'œuvre d'une confidence de la reine Anne d'Autriche, c'est le titre d'un célèbre article de Marc Maroni qui associe Françoise de Motteville à une figure de personnage secondaire de tragédie, de confidente de la reine. En vérité, elle a une activité qui la rapprocherait, si elle était un homme, d'un secrétaire, d'un historiographe, donc d'une personne dans une charge associée à une production de documents d'écrit. L'historien Jean-Pascal Gué, dans son article « Françoise de Motteville, une expertise indéfinie, comment ne pas être théologienne » autour d'une dissertation féminine sur la divinité du Christ, un titre un petit peu long, il souligne bien le rôle joué par la famille dans l'élaboration d'une stratégie d'ascension sociale par la pratique de l'écrit chez Françoise de Motteville en particulier. Donc, dans cette présentation, je vais partir du travail effectué par Jean-Pascal Gué pour situer l'écrivaine Françoise de Motteville dans une parenté d'auteur et d'agent de la littérature, de l'écriture, avant de m'intéresser à un aspect de son œuvre qui jusque-là n'a pas donné lieu à une analyse spécifique, plus spécialement donc la présence de son frère et de sa sœur dans ses écrits, et par là la manière dont Françoise de Motteville mobilise ses compétences lettrées pour construire et promouvoir l'identité familiale des Berthaud comme famille d'auteurs. J'ai fait un plan de communication. D'abord, je vais rappeler assez succinctement ce qu'a montré déjà très efficacement Jean-Pascal Gué. Donc, le fait que la famille Berthaud, c'est une famille au service du politique par l'écriture. Et donc, je parlerai de son père, sa mère et son oncle. Ensuite, je vais surtout développer deux points. Donc, l'analyse des mémoires comme lieu de conservation et de promotion des écrits familiaux. Donc, un travail d'insertion, en fait, du texte écrit d'une part par son frère François et d'autre part par sa sœur Marie-Madeleine. Ensuite, je parlerai d'un corpus manuscrit, donc les manuscrits de Motteville comme marque d'une écriture collaborative familiale, avec d'abord le travail sur le recueil de ce que j'ai trouvé dans la Sainte Écriture, et ensuite sur le précis de la vie de Henriette Marie de France. Et enfin, un quatrième temps, qui peut être aussi une conclusion rapide, même stratégique que Caroline, peut-être due à notre parenté spirituelle. donc les gestes familiaux de transmission, donc la question de l'archivage et de l'impression de l'œuvre de Motteville par ses descendants, du moins ses héritiers sur le plan familial. Pour commencer, voilà, j'ai produit un arbre généalogique bien plus artisanal que ceux qui nous ont déjà été montrés précédemment, mais qui vous permet d'identifier les personnes dont il va être question pendant les prochaines minutes. Donc, Françoise Berthaud de Motteville, je l'ai mise au milieu, mais c'est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Elle est la sœur de François Berthaud de Fréauville et de Marie-Madeleine Berthaud. Et leurs parents sont Pierre Berthaud et Louise Bessin. Pierre Berthaud étant le frère cadet de Jean Berthaud, le poète et proche de Marie de Médicis. Comme je le disais, Jean Berthaud s'inscrit comme auteur de cour et adopte des stratégies d'écriture et de positionnement à la cour liées à la production d'écrits qui vont ensuite se retrouver dans le parcours de sa nièce. Selon Jean-Pascal Gay, donc je me concentre sur la première ligne de l'arbre généalogique. Françoise Berthaud descend d'une famille de la notabilité normande qui mêle bourgeoisie et petite noblesse, dont l'ascension sociale est consolidée par le service du roi. Qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, le père de Jean et de Pierre Berthaud était professeur de collège à Caen, donc il leur donne une formation littéraire, intellectuelle, il leur apprend la traduction latine notamment, et le frère de ce père est secrétaire du roi Charles IX. Donc ce serait l'oncle de Jean Berthaud qui l'aurait introduit à la cour, et Jean Berthaud par la suite aurait introduit son frère Pierre. Et Jean-Pascal Gay donc, reformule les choses ainsi, je cite la page 44 de son article, « Le geste d'écriture de Madame de Motteville s'inscrit dans une tradition de service du politique par l'écriture. Son oncle Jean est poète de cour pendant le règne de Henri III et poursuit sa carrière sous Henri IV grâce à la protection du couple royal, devenant grand aumônier de la reine et évêque de C. Lui-même avait été introduit à la cour par son oncle secrétaire de Charles IV et avant cela régent du collège de Caen. Jean Berthaud est aussi celui qui patronne le plus de Françoise, son frère cadet, et lui obtient la charge de secrétaire du roi. Dans la construction ou la défense de sa position sociale par la famille Berthaud, la mise en avant de l'engagement littéraire semble jouer un rôle significatif, y compris d'ailleurs par la valorisation du patrimoine littéraire familial. Pierre joue un rôle important dans la publication des œuvres poétiques de Jean qu'il préface. Donc, l'action des membres de la famille Berthaud sur 3 générations consiste à s'attacher les faveurs des souverains de la dynastie des Valois, puis de la dynastie des Bourbons, et à sécuriser des charges familiales pour les hommes. Dans le même temps, la pratique des belles-lettres est elle aussi une pratique concertée au sein de la famille, Pierre Berthaud participant à la publication des œuvres poétiques de son frère.
Et peut-être est-il également à l'origine des impressions posthumes de l'œuvre de ce même frère.
La pratique de la poésie étant, semble-t-il, une manière de travailler à la réputation de la famille. Qu'en est-il alors des femmes et de la mère de Françoise de Motteville, Louise Bessin, qui, bien sûr, n'assume pas le même type de charge que les hommes de la famille Berthaud. Alors, ce qu'est Louise Bessin, c'est en fait principalement ce que nous en apprend Françoise de Motteville dans ses textes. On sait qu'elle est au service de la reine Anne d'Autriche, et que grâce à ses compétences linguistiques notamment, elle entretient dans tous les cas un lien privilégié avec la souveraine en lui parlant espagnol. Elle semble avoir plutôt l'ambition d'établir sa fille auprès de la reine
en lui apprenant à son
tour l'espagnol. C'est du moins ce que raconte Françoise de Maudit dans les Mémoires, donc c'est la deuxième citation du Patriote. Le cardinal de Richelieu, qui savait que la reine avait une grande confiance en feu ma mère et qui voyait qu'elle commençait à prendre plaisir à m'entretenir et me parler espagnol, elle a environ 7 ans à ce moment-là, me fit donner ordre de la part du roi de me retirer d'auprès d'elle. Donc, d'après Françoise de Motteville, elle a un lien privilégié avec la reine qui lui vient du fait que sa mère lui a enseigné sa compétence linguistique. Donc, elle peut s'entretenir en espagnol avec elle. Cependant, un deuxième texte précise peut-être d'autres types d'activités davantage liées à l'écriture qui caractérisaient le rôle de Louise Bessin là. Dans le recueil Conrart, on trouve une version des mémoires qui diverge par certains aspects des mémoires imprimées. Il est cette fois écrit que, effectivement, Louise Bessin est éloignée 3 ans après, donc Françoise de Maudit entre à la cour, 3 ans après, pour l'éloigner elle-même de la confidence de la reine, qui se servait d'elle pour ses intelligences avec l'Espagne, le cardinal de Richelieu lui demandait par le roi de me retirer. Cette précision pour ses intelligences avec l'Espagne suggère peut-être une activité en lien avec des échanges épistolaires orientés vers l'étranger. Donc, l'activité de Louise Bessin impliquait peut-être une activité de plume qui disparaît dans la forme imprimée, dans tous les cas qui n'y apparaît pas. Donc, ce rapide état des lieux des rôles de l'oncle, du père et de la mère de Françoise Berthaud de Motteville permet de voir comment la famille joue déjà un rôle dans la formation intellectuelle, littéraire que reçoit la future écrivaine, qui grandit bien dans une famille de lettrés et de praticiens des belles-lettres, où s'entremêle l'activité d'homme de plume, de femme de plume, à un service de... Il s'agirait maintenant de voir comment Françoise de Motteville se sert à son tour de ses écrits pour, cette fois-ci, agir dans les intérêts de sa propre famille, de sa famille survivante, c'est-à-dire son frère et sa soeur. Dans la famille Berthoud, je l'ai dit, on retient Jean et Françoise, et on dit très peu de choses de François, le jeune frère de Françoise. François qui s'appelle comme le grand-père, donc une répétition du prénom dans la famille.
Alors qu'il est lui aussi
un auteur
imprimé de son vivant. On lui connaît une série d'œuvres qui s'étale de 1648 à 1701.
La première œuvre donc, qui est attribuée à François Berthaud,
c'est un ballet de cour, le ballet
du dérèglement des passions,
qui a été joué au
palais cardinal devant leur majesté le 26 janvier 1648. Et qui met en scène le duc de Joyeuse et les jeunes princes et seigneurs de la cour.
Donc, son entrée en littérature
à François Berthaud, elle passe
par une activité de cour et une présence sur la scène de cour
qui le met en lien d'emblée avec les premiers personnages de l'aristocratie.
Sans doute que sa sœur a joué un rôle dans cet accès à un espace de cour auxquels, semble-t-il, on n'avait pas contribué par des écrits auparavant.
Il me semble que la date, malheureusement, du ballet, 23 janvier 1648, explique la courte durée des représentations, je crois,
et puis le fait qu'il abandonne, semble-t-il, l'activité d'auteur de spectacle de cour, puisque juste après,
c'est la Fronde,
et c'est vraiment l'un des derniers spectacles de cour qui soit joué dans Paris, avant les événements des troubles. Ces événements des troubles, ils se rencontrent ensuite dans une seconde publication, de 1649, qui a un libelle en faveur du parti de la cour, les avantages de la paix et de l'union de la ville de Paris, qui est aussi une autre titre.
On lui attribue aussi parfois le Paris burlesque, bien que cette attribution soit contestée. Tout ça, ce sont ce que j'appellerais ces œuvres de jeunesse, d'entrée sur la scène littéraire.
S'ensuit une sorte de parenthèse qui correspond à des moments où il est ambassadeur et aussi à des moments
où il est lecteur du roi. Puis, dans les années 1660, il publie des ouvrages liés à l'ambassade d'Espagne, à laquelle il participe, donc, pour conclure le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche.
Et enfin, à la fin de sa vie,
en 1701, il écrit un traité nobiliaire, Les prérogatives de la roi. Son frère, donc, il est mentionné à plusieurs reprises dans les mémoires de sa sœur.
Bien qu'elle raconte la vie d'Anne d'Autriche et qu'elle ait une ambition historiographique, elle ponctue son ouvrage de référence à
cette ascension sociale
de François Berthaud. On sait qu'en
1641, lorsqu'elle est fraîche veuve, François Berthaud n'a pas encore d'établissement, ce qui explique la précarité de Françoise. En 1649, elle mentionne le libelle en faveur de la cour. Donc, c'est dans un texte qui
apparaît dans le récit de la Fronde.
Je vous le lis. Donc, je partis de Compiègne
pour revenir à Paris le même jour que la cour partit pour Amiens et ne suivit point l'arrêt.
À mon retour, je trouvai les esprits aussi mal intentionnés que jamais et les libelles des séditieux plus dangereux à l'État que ceux qui jusqu'alors avaient seulement attaqué la personne du cardinal. Un de ceux-là prononçait hardiment que quand les révoltes étaient générales, les peuples avaient un juste droit de faire la guerre contre leur roi, que leur grief devait être décidé par les armes et qu'ils pouvaient dans ce temps-là porter la couronne dans d'autres familles, changer de loi. Et dans cet écrit, il y avait des exemples allégués d'États
qui avaient changé la monarchie en un gouvernement de plusieurs, voulant par là faire naître au Parlement le désir de se faire pareil au Sénat de Venise ou de suivre l'exemple de celui d'Angleterre.
Ici, on trouve une note marginale.
Mon frère, à son retour d'Allemagne, répondit à cet écrit et sa réponse fut estimée. Il était néanmoins fort jeune. Donc ici, c'est la première mention d'une pratique d'écriture familiale, celle du frère François, qui n'est pas nommé par son nom, mais bien par cette relation familiale qui les unit. Il est bien probable qu'il s'agisse là d'une note marginale d'un manuscrit qui a été reproduit à l'impression.
Dans le recueil courant, on voit
qu'elle pratique les notes marginales assez fréquemment. En 1649, François Berthaud a normalement 28 ans, donc il n'est pas si jeune que
la note pourrait le laisser supposer. Mais la notation
a le mérite de pointer l'action du frère, l'action politique du frère pendant la Fronde,
qui témoigne d'une relation de service à l'égard de la cour
et de qualités individuelles d'écriture qui rendent l'écrit et l'auteur dignes d'être reconnus.
Dans le tome suivant, le tome 4, je passe rapidement là-dessus, elle mentionne son activité
de lecteur du roi, qui s'arrête en 1657.
Donc, activité
où il est aussi amené,
par ses lectures, à être associé à la littérature.
Elle raconte notamment qu'il est proche de Louis XIV, à qui il lit le roman tonique de Scarron,
et qu'ensuite il est écarté par Mazarin, qui est jaloux de cette intimité entre le frère de Maudeville,
qui n'est pas apprécié de Mazarin, et le jeune souverain. Donc, je passe rapidement là-dessus. Par contre,
elle en vient à l'ambassade de Bramont
en 1659, qui est l'ambassade que
raconte son frère dans les ouvrages des années 60. Cette ambassade
qui est importante puisque c'est ce qui permet la conclusion de la paix des Pyrénées et du mariage royal.
À l'occasion de cette ambassade, le frère écrit des lettres en forme de relation à sa sœur. Et ces lettres, Françoise de Maudeville
les mentionne et va même plus loin, puisqu'elle en insère une dans les mémoires
eux-mêmes.
Donc, elle introduit ainsi cette relation,
au tome 5, cette fois.
Le maréchal de Gramont avait été choisi pour ambassadeur extraordinaire vers le roi d'Espagne, pour aller en poste demander l'infance de la part du roi. Beaucoup de personnes le suivirent en cette célèbre course.
Mon frère fut du monde, que la curiosité il n'en a comme les autres. Pendant son séjour à Niort, je reçus de lui la relation
de ce qui se passait en cette occasion, qui me parut propre à placer dans cet ouvrage. Elle était elle.
Et ensuite, elle insère donc la lettre de mon frère, où elle précise qu'il est abbé du monde malade
et conseiller au Parlement de Rouen, ce qui n'est pas à l'époque, donc c'est étonnant qu'elle le précise. Aussi, pardon, mais à nouveau, donc, on n'a pas le prénom du frère, mais les charges honorifiques qui permettent de flatter cette identité de famille. Cette lettre, elle a une particularité remarquable, c'est que c'est la plus longue lettre qui insère dans les mémoires, elle fait 20 pages. Alors qu'en général, les lettres font 1, 2, 3 pages. Ce n'est pas la seule lettre familiale qui est insérée dans le texte, puisque Marie-Manette Berthaud, donc la jeune sœur, écrit aussi une lettre insérée dans la trame de la narration. Marie-Madeleine, aussi appelée Madeleine Eugénie, aussi appelée Socratine en religion, est donc la sœur cadette de Françoise. On n'a pas les dates de naissance et de mort de cette sœur. À l'inverse de Françoise et de François, elle n'a pas laissé d'œuvres qui font d'elle une autrice inscrite dans les catalogues d'auteurs. Elle est connue principalement grâce à deux sources, les mémoires de sa sœur et les archives du couvent des Visitandines de Chaillot, dont elle était un temps la supérieure. Donc elle est moins présente dans les mémoires de Motteville que le frère, mais elle est néanmoins mentionnée pendant le récit de la Fronde, et notamment en août 1650, le mois où elle décide de prendre le voile et de rejoindre un premier couvent. À cette occasion, elle rédige une lettre, nous raconte Françoise de Motteville, lettre que la sœur décide d'intégrer à nouveau au récit historiographique. Elle l'indique ici, « Ce fut en ce même mois, la veille de la fête de Notre-Dame d'août, que ma sœur me quitta pour entrer dans le couvent des filles de Sainte-Marie de Sainte-Gervoise, où elle a pris la vie en 1650. Sa vertu était estimée de tous. Elle était aimable, bien faite, intérieurement toute sainte. Et l'excès de sa sagesse, joint à la beauté de son esprit, lui avait fait donner le nom de Socratie. Malgré les charmes de la cour, elle préférait souvent les maisons des pauvres au cabinet de la reine. Et l'amitié qu'elle avait pour mon frère et pour moi, quoique grande, le céda à l'amour qu'elle eut pour Dieu. Je veux mettre ici la lettre qu'elle m'écrivit en me quittant et qu'elle laissa sur sa table. Elle ne convient point à mon sujet, mais j'espère du moins qu'elle édifiera ceux qui préfèrent le ciel à la terre et qu'on me pardonnera si je m'honore d'être la sœur d'une si digne religieuse. La lettre de Marie-Madeleine est brève, elle occupe une page et demie des mémoires imprimées. Françoise de Motteville lui attribue une fonction d'édification du lecteur. Le texte atteste de la grande vertu de sa sœur, qui, par ricochet, atteste d'une vertu familiale, vertu estimée, je cite, de tous. Donc, du frère à la sœur, c'est toujours l'estime du public qui est soulignée pour introduire des écrits et des actions des Berthaud. De là de même de l'autrice, l'insertion de la lettre et l'évocation d'un autre couvent l'écarte du fil de la narration. La digression est le support de l'éloge de cette figure familiale pieuse, et la lettre devient une forme d'attestation, de démonstration de la piété sororale. Donc il y a ces deux écrits familiaux, c'est-à-dire écrits produits par des membres de la famille, insérés dans les mémoires et soulignés par le biais de titres notamment, mais aussi de commentaires qui les précèdent et les insèrent. Ces deux écrits semblent bien petits, bien étroits dans un ouvrage qui fait quand même 1500 pages. Mais si on se fie au relevé de Myriam Simboudi dans La mémoire des lettres, la lettre des mémoires, ces deux lettres prennent place dans un corpus très, très restreint de 13 lettres en tout insérées dans le texte, et elles ont la particularité d'être produites par des membres de la famille, alors que toutes les autres lettres sont produites soit par le roi, soit par la reine, soit par Mazarin, soit par le duc d'Orléans, donc par des figures politiques majeures de l'époque. Le recensement donc des lettres nous permet de nous rendre compte du traitement exceptionnel en fait, qui est accordé aux écrits familiaux dans l'économie de l'œuvre. La lettre du frère et celle de la sœur sont regardées comme des écrits estimables, dignes d'être en quelque sorte archivés, reproduits et vus. En convoquant ces écrits, Motteville valorise une pratique familiale de l'écriture qui relève d'usages politiques, diplomatiques ou spirituels.
Maintenant, dans un troisième temps,
je voulais vous montrer comment l'étude des manuscrits, cette fois-ci de Françoise de Motteville, permet d'aller plus loin dans l'analyse d'une forme de collaboration familiale autour de la production scripturaire. Donc, en premier lieu, il y a une collaboration qui est attestée par un document qui s'appelle le recueil de ce que j'ai trouvé dans la Sainte Écriture, qui est donc un manuscrit produit tardivement par Françoise de Motteville, qui a fait l'objet de cette longue étude de Jean-Pascal Allier.
Donc, j'en dis simplement quelques mots parce qu'il a déjà travaillé sur le sujet.
Dans ce texte, Françoise de Motteville rassemble des commentaires et des traductions autour du matériau biblique. Peut-être a-t-elle envisagé une publication. L'écrit, globalement, est produit dans une graphie très élégante, bien qu'il porte des traces d'ajouts, de corrections, donc qui ressemblent parfois à un bruit. Il est précédé d'une lettre en forme d'autorisation du père Rapin, ce qui va aider l'hypothèse d'une circulation du manuscrit, une forme de publication manuscrite, qui ne l'amènerait pas à une publication, bien sûr, imprimée. Et donc, ce qu'on voit en tête du manuscrit, c'est cette mention donc, sur la page de gauche. Mon frère a lu ce tome entièrement et l'a trouvé beau. Donc, à côté de l'approbation scientifique religieuse de la figure d'autorité qui est le père Rapin, il y a une approbation familiale très succincte, mais qui montre un travail de relecture de son frère François. Et ce travail n'est pas le seul qui l'engage autour du manuscrit, puisqu'on voit au fil des pages, c'est encore une fois relevé par Jean-Pascal Guier, qu'elle utilise une traduction qu'elle semble avoir commandée à son frère. Donc, c'est page 150, l'extrait du 10e livre des Épîtres de Cloun, où il rend compte à Trajan de la manière de vivre des chrétiens. À nouveau, la note marginale indique « Mon frère m'a traduit cet endroit ». Donc, il s'agit là d'attribuer une traduction latine dans l'écrit ancien. Et telle qu'elle est formulée, la note laisse penser que Françoise commande la traduction, que François l'a effectuée afin qu'elle soit insérée dans le manuscrit. Le geste de traduction est intrinsèquement lié au projet du recueil de la sœur. Donc, c'est vraiment une rare évocation du frère, mais elles sont en tête et en marge du recueil. Et elles esquissent la piste de collaboration entre les deux. Françoise de Motteville revendique l'approbation de François et mobilise un document, donc une traduction, qui fait état de compétences intellectuelles de ce fait. Donc, comme le relève encore Jean-Pascal Guier, les traductions dans le recueil ne sont pas systématiquement attribuées. Donc, deux hypothèses, il est possible que le frère traduise d'autres passages. Mais surtout, le fait qu'elle lui attribue spécifiquement ici le texte, en fait, souligne l'intervention qu'elle aurait pu sinon masquer. Donc, j'en viens à un deuxième document qui, lui, n'a pas fait l'objet de travaux, donc qui est inédit. C'est le précis de la vie d'Henriette Marie de France, qui est, lui, un document écrit par Françoise de Motteville en 1669, à l'occasion de la mort de la reine d'Angleterre, Henriette Marie de France, sa fille, Madame, la duchesse d'Orléans, commande à Françoise de Motteville un mémoire retraçant la vie de la reine qui doit servir à l'oraison funèbre de celle-ci. Et c'est l'une des sources, notamment, de l'oraison funèbre de Bossu. Ce manuscrit, qui est un cahier de 6 feuillets, conservé aux Archives nationales, il appartient à une liasse de documents provenant du couvent de la Visitation de Chaillot. Couvent qui a été fondé par la reine d'Angleterre, d'après les sources, sur les conseils de Françoise de Motteville-Allier. Donc, à la mort d'Henriette Marie de France, en 69, la duchesse d'Orléans commande un travail d'écriture à Françoise de Motteville. Et ce travail est conservé par les religieuses du couvent, bien qu'il s'agisse d'un bouillon. Elle l'insère dans une liasse de documents relatifs à la fondatrice de ce couvent. Il y a un travail sur, de recherche qui a été mené par Marie-Anne Guivignac-Glesguen qui mentionne cet ensemble de documents archivistiques dans un article qui s'appelle « La visitation de Chanou au XVIIe siècle, splendeur et tribulation d'un monastère dans le siècle » qui est apparu dans la revue « XVIIe siècle » en 89. Donc ce que montre cet article, c'est qu'en fait, les religieuses du couvent de la visitation de Chaillot, à la mort d'Henriette de France, ont cherché à conserver les biens qui appartenaient à la souveraine et qui étaient dans le bâtiment. Et donc, elles ont monté une sorte de dossier pour souligner les liens que la reine entretenait avec le couvent et revendiquer une forme d'héritage spirituel, mais aussi économique. Le mémoire de mode vie, qui devait d'abord servir de bouillon pour les oraisons funèbres, devient donc un document qui témoigne des liens entre la reine et le couvent. Et c'est comme ça que j'interprète la dernière page du manuscrit, qui est en fait un ajout. François de Motteville rajoute une page manuscrite, après avoir fini son mémoire, une page où il est question de la relation privilégiée entre sa sœur et Henriette Marie de France. Donc je vous lis ma transcription un petit peu améliorée du texte manuscrit. Ma sœur m'a dit avoir eu avec la reine d'Angleterre de profondes conversations sur des matières de conscience, quand toute elle a connu qu'elle avait une grande droiture d'intention avec des sentiments très honnêtes, que son cœur était pur et qu'elle avait lieu de croire d'elle que Dieu l'avait pourvue des faiblesses ordinaires de la jeunesse, que l'amour propre et la vanité ont continué de produire dans le cœur des femmes. Elle m'a dit de plus qu'elle avait remarqué que cette princesse avait eu cette destinée d'avoir été toujours servie par des personnes d'une humeur fort opposée à la sienne. Elle était vive et prompte. Et celles qui ont l'honneur d'être à elle avaient naturellement de la paresse et de la lenteur, que la reine avait sur cela une patience admirable. Et quoi qu'elle en souffre beaucoup, elle n'en a jamais témoigné ni chagrin, du moins à leur égard. Qu'elle avait un grand soin de ses domestiques et de les payer fort ponctuellement des gages et appointements qu'elle leur donnait. Elle avait le même soin des autres à qui elle devait. Et ma sœur et moi avons remarqué toutes deux que cette princesse, après tant de grandeur, vivait en France constante et satisfaite dans sa solitude, qu'elle estimait beaucoup plus que l'éclat où elle s'était vue autrefois, car elle était détrompée du monde et connaissait parfaitement le néant des grandeurs de la terre. La dernière fois que j'ai eu l'honneur de la voir, elle nous a dit à ma sœur et à moi qu'elle allait s'établir à Chaillot pour y mourir et qu'elle ne voulait plus penser ni au médecin ni aux médecines, mais seulement à son salut. Donc, dans cette page manuscrite que transcrit, il y a 4 fois une référence à sa sœur qui est absente, sinon d'une mémoire qu'elle a écrite. Donc, le fait d'insister sur la présence de la sœur, en fait, de faire de sa sœur un co-témoin de la confession, des confidences de la reine Henriette de France. C'est, je pense, une manière pour Françoise de Motteville non seulement de construire un témoignage convaincant pour les gens qui recevraient ce document comme une preuve de la relation entre la reine et le couvent, mais c'est, je pense, aussi une manière de pousser sa sœur dans une ascension au sein du couvent, c'est-à-dire que sa sœur devient ensuite la supérieure du couvent. Et ici, il me semble qu'il y a des marqueurs d'insistance, une visibilisation de la sœur qui peut aussi s'adresser aux membres de la communauté et donc souligner cette présence et cette agentivité de la sœur qui devient l'instrument de la réclamation du couvent tout entier dans le corpus de manuscrits. Donc, ces hypothèses, l'idée que le texte sert à la fois les demandes de la communauté et sert une stratégie familiale d'établissement au sein du couvent au moment où la protectrice de Motteville, qui a sans doute contribué à placer sa sœur, meurt, ne s'excluent pas les unes les autres, donc peut-être que le texte a plusieurs usages, qu'elle lui donne plusieurs destinations. En tous les cas, ici, l'autrice mobilise une forme d'autorité conjointe. Elle a une autorité dans le domaine de l'écriture encomiastique au service des reines. Sa sœur a une autorité dans le domaine de la spiritualité féminine. Et elle semble agir de concert pour servir la communauté qu'elles veulent soutenir, qu'elles veulent consolider. J'en arrive au dernier point. Est-ce que j'ai encore deux? Mon dernier point, en guise de cheminement vers la conclusion, je vais évoquer le rôle supposé qu'ont joué les héritiers de la famille Berthaud dans cette fois-ci la conservation et l'impression de l'œuvre de Françoise de Motteville. Les mémoires de Françoise de Motteville paraissent de manière imprimée en 1723. C'est donc 34 ans après sa mort. À cette époque, sa sœur et son frère sont également morts et son frère n'a pas eu de descendance. Il a deux filles qui sont mortes sans avoir elles-mêmes d'enfants. En 1724, après la publication des mémoires, on trouve dans le journal des savants un mémoire historique dans lequel il est fait mention d'une transmission familiale du manuscrit des mémoires. Je cite cet article. Madame de Motteville avait un frère dont elle parle dans ses mémoires. On retient qu'elle parle de ce frère, ponctuellement des mémoires. Il se nommait François Berthaud, sieur de Fréauville. Il épousa mademoiselle de la Garde, tante de monsieur le président de la Garde d'aujourd'hui, laquelle vit encore. Monsieur le président de la Garde possède l'original des mémoires de Madame de Motteville, qui sont aujourd'hui si répandues dans le monde, et que monsieur Meyer, je ne sais pas comment ça se prononce, a eu soin de faire imprimer en Hollande. Ici, on peut peut-être lire le mémoire comme une nouvelle et une ultime pièce s'insérant dans une stratégie familiale de publication des écrits Berthaud. L'article associe la famille Berthaud à celle de la Garde, une famille importante parce que...
Une famille parlementaire.
L'union de François Berthaud et de Marie de la Garde a lieu en 1666.
Dommage, parce que c'est l'année où meurt Anne d'Autriche et donc où s'arrêtent les mémoires. Donc, le mariage n'est pas mentionné dans les mémoires. La famille de la Garde ne peut pas se vanter d'être inscrite dans l'œuvre imprimée.
Par contre, elle arrive à se vanter de posséder le manuscrit original de Françoise de Motteville et on décide comme ça une circulation qui passe dans la belle famille, la famille des Lagarde. L'article, dans une certaine mesure, poursuit une entreprise observée dans les mémoires, qui est une entreprise de conservation du nom et de célébration du lignage associé au prestige du nom des Lagardes. Prestige dont bénéficient en même temps les Lagardes en héritant du prestige littéraire associé à la mémoire
réaliste.
Le prestige littéraire de François Berthaud semble s'être évanoui en 1723.
Il est traité comme
quelqu'un dont on ne se souvient pas du nom, à l'inverse de Samson. Rien n'indique que Marie ou Jacques de la Garde agissent pour faire imprimer les mémoires. Mais en revendiquant la possession d'un manuscrit autographe, la famille contribue à la réussite de la publication imprimée,
puisque l'existence de l'autographe
sert un discours d'authentification du texte. Ou pour le dire autrement, dès lors qu'on affirme l'existence d'un manuscrit autographe, renforcé par le récit de circulation intrafamiliale, on peut considérer que l'imprimé propose un texte équivalent à un original en possession des héritiers. Le geste de transmission et de conservation qui est décrit témoigne d'une valeur que les héritiers de la famille associent au document, traité comme une archive familiale et comme un écrit littéraire digne d'être partagé et revendiqué. En conclusion, l'œuvre de Françoise de Motteville est une œuvre dont la circulation et la composition implique des stratégies familiales diverses de publication. L'écriture sert les intérêts et les ambitions de la famille Berthaud et par extension au 18e de la famille de la Garde. Cette écriture familiale, là, je reprends une expression de Johan de Gain, intervient chez Françoise de Motteville dans différents types de documents, certains qui ont été rattachés par la suite à la littérature et d'autres qui sont inconnus, associés au domaine de la théologie. Cette écriture familiale se conçoit chez elle en lien avec des entreprises de promotion sociale au sein de la société de cour, d'espace politique ou conventuel. La fratrie Berthaud hérite des parents un ensemble de compétences linguistiques, littéraires mais aussi, je pense, tout simplement social. En partant d'études de l'œuvre de Françoise, on parvient donc à faire émerger toute une lignée de professionnels de l'écrit. Du moins, c'est
ma impression à la fin du parcours.
Et on compte trois auteurs imprimés, trois noms d'auteurs
entrés dans les catalogues, mais on compte surtout tout un tas de ce que j'appelle agents de la publication qui mettent en œuvre des actions soit d'édition, soit de conservation, soit de collaboration de manière diverse et variée pour assurer la circulation, la promotion du texte.
Donc, l'étude de ces gestes, du film là-dessus, permet d'échapper au discours sur l'exceptionnalité des femmes de lettres, qui tend à considérer les autrices des siècles passés comme une série d'exceptions isolées dans le champ littéraire masculin. Ici, on voit au contraire comment circule la pratique de l'écriture entre les hommes et les femmes du clan familial.
Voilà.
Merci.